La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur.
Un fauteuil en rotin, un collier de perles, des seins nus, image devenue mythique. Sylvie Christel dans Emmanuel 2, phénomène du box-office. Ce film sera diffusé pendant 13 ans, non-stop, dans un cinéma des Champs-Élysées. On vous parle pornographie ce soir dans Libre Ensemble.
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Mizin.
Bienvenue dans Libre Ensemble, on vous parle d'une expo porno en ce moment à l'ULB et bientôt ailleurs, à Charleroi, dans quelques mois notamment. Mais plus largement, nous allons discourir de la pornographie ce soir et ce qu'elle dit de nos pratiques socio-sexuelles, culturelles, artistiques et littéraires, transgressives ou conservatrices, reproduisant ou pas les mêmes stéréotypes depuis des siècles. C'est ce que nous allons voir avec nos deux spécialistes, Laurence Rosier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure de linguistique, de didactique et d'analyse du discours à l'Université Libre de Bruxelles et commissaire de l'Expo Porno. Et aussi Valérie Piette. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles. Des recherches, les vôtres, portent sur l'histoire des femmes, du genre et des sexualités. Et vous êtes aussi co-directrice de Stridge. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, Stridge.
Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre. Et vous êtes aussi commissaire de cette expo, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas. Alors, nous allons explorer avec vous deux les différentes facettes de la pornographie. Mais il faut avouer que c'est un peu osé d'imaginer cette expo. Est-ce que c'est bien le moment ? Est-ce que la société ne tient-elle pas un discours alarmiste sur la pornographie et cette facilité de la faire entrer chez nous via des sites facilement accessibles ? Est-ce que les ados sont inondés d'images ? Vous avez voulu déconstruire, j'imagine, quelque chose, mais quoi ? Alors, comment agir Germer l'idée de cette expo qui commence. Se font des regards insistants. Laurence, oui, visiblement.
Je pense que c'est il y a deux ans, et justement par rapport au discours alarmiste que l'on entendait avec la seule solution, l'interdiction. Et nous, en tant qu'universitaires, travaillant aussi bien sur le champ du féminin, du féminisme, des violences faites aux femmes, du discours qu'on a justement par rapport à la pornographie qui serait essentiellement hétéronormée et reflet d'un monde patriarcal, on s'est dit que peut-être c'était l'occasion d'inaugurer un peu les porn studies à l'ULB, puisque aujourd'hui, dans pas mal d'universités, on étudie la pornographie comme un objet culturel. D'accord. Et historique. Et on s'est dit que faire une expo, ça serait bien, parce que ce n'était pas simplement parler aux universitaires, mm-hmm. mais aussi aller vers la cité et proposer notre regard sur la pornographie.
Ça manquait ? Il n'y en a jamais eu véritablement des expos porno ? À part, bon, on connaît les boutiques spécialisées.
Oui,
où les petits cinémas diminuent.
Il y a des musées, mm-hmm. Je pense à New York,
oui, Amsterdam,
etc.
C'est plutôt sur la rigolade, entre guillemets.
Oui, ou alors c'est l'érotisme, mm-hmm. Mais une approche à la fois scientifique, mais aussi artistique, de la pornographie montée dans une université, je pense que c'était la première fois.
Mais c'est vrai que c'était l'expo impossible par excellence, oui, d'une certaine manière. Est-ce qu'une expo sur le porno est-elle possible ? C'est encore en vrai débat et on a essayé d'y répondre. Mais c'est vrai qu'on est face à un objet culturel massivement consommé, en gros que presque tout le monde regarde, mm-hmm. ou a regardé, et que dont personne n'ose parler ou très peu. Donc je crois
une personne n'a jamais regardé, mais voit vaguement de quoi il s'agit, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et donc, je crois qu'il fallait évidemment l'attaquer de front d'une certaine manière, grâce surtout au monde artistique. Ça a été une manière de rentrer dans le porno, mm-hmm. ou dans la pornographie, mm-hmm. d'ailleurs, et surtout de montrer son histoire. Donc, c'était une expo, en fait, impossible qu'on a tenté de réaliser. Et je crois que ça va, le pari est réussi.
Comment est-ce qu'on décide d'aborder les thématiques différentes ? Comment est-ce qu'on récupère le matériel qu'il faut.
C'était un débat extrêmement long, parce que oui. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on a commencé à en discuter, notamment avec Jean-Didier Bergilet, qui nous a soutenus pendant une partie de ce montage, qui est architecte, donc aussi avec une autre vision, mm-hmm. Une linguiste, une historienne en architecte, Muriel Landrin qui travaille dans le cinéma, et tous les quatre au minimum, on travaille mm-hmm. d'une manière ou d'une autre sur les sexualités. La pornographie, qu'on le veuille ou pas, fait mm-hmm. partie des sexualités mm-hmm. d'aujourd'hui et du passé. Et donc ça, c'était l'interdiction multidisciplinarité, les regards différents. Je crois que ça a été la base même de l'expo. Et puis, on a refait le scénario des dizaines de fois.
Oui, 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 parce que on s'est dit que le fil rouge de l'histoire, justement, à destination du public, des étudiants et des étudiantes, c'était un bon filon. Alors, jusqu'où remonter? Et qu'est-ce qu'on voulait dire avec l'histoire, avec la plongée dans l'histoire? C'est-à-dire, on voulait montrer qu'il y avait eu des représentations de la sexualité à travers les âges, mais aussi qu'il y avait une question, chaque fois qu'il y avait une représentation de la sexualité, liée à la censure, censure politique chez Sade, par exemple, tabou, normes, et alors on aurait pu choisir d'autres entrées, hein, là c'est un petit peu arbitraire, mais c'est vrai qu'en balayant du Marquis de Sade à Jackie et Michel, on allait de la pornographie philosophique à la pornographie numérique.
Mais d'ailleurs, vous parlez du Marquis de Sade, donc l'expo commence avec le Marquis de Sade, donc on est au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, et vous montrez bien que le libertinage de Sade de l'époque, c'est aussi un anticléricalisme affirmé, en fait. Il provoque, il va même au-delà d'où il voulait aller, visiblement, parce qu'il est parti dans ce mouvement-là. C'est un acte politique, en quelque sorte.
Oui, bien sûr. C'est la liberté sans frontières, ce qui nous permet de poser, d'ailleurs, la question jusqu'où peut aller l'imagination, puisque dans le cadre, évidemment, de cette expo, il y a des questions, il n'y a pas de réponse, on ne dit pas ce qu'est la pornographie, mais c'est clair que
ou
ça,
si elle est bonne ou pas bonne.
Voilà, exactement, pas de point de vue moral, c'est vrai que ça de fait éclater tous les carcans, tout en finalement ayant passé les trois quarts de sa vie en prison, étant beaucoup plus dans le fantasme, dans l'imaginaire. C'est vrai qu'il met en avant
30 ans, j'ai lu, voilà. 30 ans de sa vie arrêté et mis en prison.
Alors, dans les pratiques sexuelles, c'est vrai qu'il va prôner la sodomie parce que il n'y a pas de procréation, et donc là c'est vraiment un acte politique et en effet anticlérical. Mais quand on voit aujourd'hui que l'un des mots-clés les plus recherchés par les consommateurs et les consommatrices de pornographie, c'est anal, par exemple, ben voilà, c'était encore un fil rouge, un précurseur sur les pratiques qu'on refoule, entre guillemets, dans la niche des homosexuels, alors que c'est une pratique qui la dépasse. Mais ça, par exemple, on ne l'aborde pas de front. On montre des images et à ce moment-là, il y a une suggestion pour pouvoir parler, par exemple, de cette pratique à partir de Sade.
Alors Sade est anticlérical, mais vous pas, ça va. Vous n'avez pas versé de l'anticléricalisme dans cette exposition.
Non, on aurait pu, parce que le porno a souvent été utilisé par les anticléricaux, d'ailleurs. Tout ce qui se passe dans les abbayes, dans le
les
monde,
soutanes,
les soutanes, les sœurs entre elles, etc.
On a des cartes postales coquines qui représentent
tout à fait quand
ça,
même. Il y en a quelques-unes, mais c'est récurrent chez les anticléricaux, dans l'imaginaire populaire, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, d'une certaine manière, que font-ils entre eux dans un monde fermé? On imagine toujours des questions
en tout cas, ça
liées
porte
à l'imagination.
La sexualité.
Voilà. Et voilà, Sade l'avait déjà mis en avant, donc c'est clair qu'il fallait remonter au XVIIIe siècle. C'est vrai qu'on aurait pu, peut-être qu'on le fera pour une publication, s'arrêter à la fin du XIXe siècle, où justement, là, l'anticléricalisme va vraiment se saisir des questions sexuelles et de la pornographie au sein de l'Église.
Et il y a aussi une petite parenthèse sur le porno et le colonialisme. Vous faites une petite parenthèse, Pascal Blanchard, avec son livre « Sexe, race et colonie » qui a fait grand bruit. C'est assez étonnant aussi, ça.
Mais on en a aussi beaucoup discuté. Fallait-il montrer ces images? On pensait oui. Et en même temps, on ne voulait pas qu'il y ait une complaisance par rapport à ça, que ça finisse par être esthétisant, à l'instar des autres cartes postales avec des jeunes femmes blanches. Et puis, on a décidé de montrer certaines photos qui sont particulièrement obscènes, d'ailleurs. Mais voilà, avec un commentaire soutenu pour dire, ça existait. Le colonialisme a organisé la sexualité, dont faisait partie la pornographie et la représentation de la sexualité forcé dans ce cadre colonial. On a fait un truc équilibré, je pense. Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils avaient découvert ça. On peut en parler, mais quand on le montre, il n'y a rien à faire.
C'est toujours beaucoup plus compliqué.
C'est questionner le colonial et l'histoire, avec tout le débat autour du bouquin de Blanchard et autres. Mais c'est aussi questionner l'actualité, car l'imaginaire colonial, il est encore présent, peut-être quelquefois omniprésent dans nos vies, et donc de questionner aussi l'entrée beurette, par exemple, ou toutes les entrées ethniques dans les sites pornographiques qui sont extrêmement nombreuses et qui posent bien des questions.
Alors cette phrase d'André Breton qui est assez connue, la pornographie c'est l'érotisme des autres. Quel fut le rôle des surréalistes? Là de nouveau on parle politique, on parle aussi art évidemment, oui. Changement de... On balance tout.
Mais c'est un classique en fait, parce que dans les dictionnaires de la pornographie qui existent, il y a une entrée surréaliste. Donc ils sont... alors c'est sans doute via la citation de Breton, mais eux vont mener une réflexion sur l'érotisme. Hein, la plupart de Robert Desnos, Georges Bataille, etc. parlent d'érotisme. Maintenant, quand on lit leurs œuvres, clairement, et d'ailleurs Bataille, il y a de l'anticléricalisme, mais en même temps mêlé à, comme s'il avait besoin de ce mysticisme pour pouvoir bander, si je peux me permettre. les surréalistes, c'est l'esthétique du scandale. Alors forcément, la sexualité fait scandale, et donc ils vont s'en servir de cette manière-là. Ils vont s'en servir aussi pour sublimer la femme, donc d'où plutôt l'érotisme. Mais quand même, il faut pas oublier que c'est le monde surréaliste est aussi un monde très très masculin, et ils vont morceler le corps de la femme, même si c'est pour lui rendre hommage. Et finalement, les femmes ont un peu de mal à exister autrement qu'en termes de muse, d'épouse ou de compagne. Et donc, ils tiennent un discours sur la sexualité, mais c'est quand même encore un discours masculin.
Valérie Piette, l'érotisme, c'est sublimer la femme, oui ou non? Et la pornographie, c'est la rabaisser? Comment on peut se positionner?
C'est les stéréotypes,
en tant
ça,
que... Oui, on est en plein stéréotype et de nouveau dans des questions morales, évidemment. Je crois que cette phrase sur la pornographie, je la trouve passionnante, intéressante. Elle pose bien des questions de classe, pour moi, aujourd'hui, de classe sociale. Et pose la question toujours de cette représentation de l'acte sexuel, qui est quand même quelque chose... Alors, je ne vais pas dire que tout le monde le fait, parce qu'on pourrait encore discuter de la sexualité pour l'instant, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose que nous faisons tous. Nous sommes tous issus d'un acte sexuel, ou en tout cas à 99% d'entre nous. Donc voilà, c'est quelque chose que tout le monde fait, qu'en même temps on ne veut pas montrer. Pourquoi ne peut-on pas voir ce que nous faisons d'une certaine manière?
C'est vrai, pourquoi?
Voilà, pourquoi?
D'où viennent
pourquoi,
les tabous?
Pourquoi cette obscénité? Pourquoi mettre ça hors de la vue et hors de la scène? Pourquoi c'est immoral? Pourquoi c'est hors de la scène? Et je crois que c'est extrêmement intéressant de se poser cette question. Pourquoi il y aurait une pornographie plus belle qu'une autre, plus acceptable qu'une autre? Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Mais là, l'intersectionnalité, je crois, vient nous aider. Les questions ethniques, on l'a dit, mais les questions de classe sociale, qui sont pour moi omniprésentes, y compris avec Jackie et Michel, hein. C'est la porno un peu du
populaire
de la populace française, d'une certaine manière, et cette belle pornographie, cet érotisme, cette pornographie esthétisée, excitante, mais pour une classe sociale, voilà. Je crois que c'est quand même des questions, enfin, comme l'a dit Laurence, on a voulu surtout poser des questions, plus que d'apporter
faire
des réponses.
Apporter la réflexion.
Tout à fait.
Cet acte que l'on cache, d'où nous sommes nés tous, a toujours été censuré, a toujours été caché, ou dans l'histoire de l'humanité, ou dans certaines contrées du monde, elle peut s'afficher?
Je cite toujours l'exemple des fresques de Pompéi, où on montrait déjà des accouplements. Alors ce n'était pas nécessairement, à nouveau, le reflet de la société, ils ne passaient pas leur temps à copuler, à faire des partous, mais c'est des fixations de l'imaginaire. Et donc, on a besoin, finalement, d'avoir un moment cette représentation pour pouvoir après développer son propre imaginaire érotique. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a toute une histoire historique et artistique de la représentation de la sexualité. Alors, il y a aussi la représentation de la nudité, ce qui n'est pas la même chose. On confond souvent les deux. Et d'ailleurs, dans l'expo, on pose aussi la question, en ayant fait une énorme reproduction de L'origine du monde de Courbet. D'ailleurs, un des visiteurs m'a dit, mais enfin, je ne comprends pas, ce n'est pas pornographique. Je dis, mais c'est bien pour ça que nous l'avons mis. Et puis, quand on la poste sur Facebook, se fait censurer.
Ce tableau est censuré sur Facebook. D'ailleurs, vous-même, vous avez été censuré sur Facebook.
En mettant les photos du vernissage, j'ai été bloquée pour 30
Quelle
jours.
Quelle était-elle, cette photo? C'est celle de l'expo?
C'était un ensemble de photos du vernissage. Et je pense que c'est une photo, d'ailleurs, qui était très bien composée, avec un jeune homme qui avait des dreadlocks. Et derrière, il y avait un sexe dressé. C'est l'une des photos de Jean-Noël Guimin. Et bon, elle était très belle, cette photo. Il y avait un jeu de lumière. Et j'ai vu que c'était celle-là qui avait été... pointé. Alors pour une fois, c'était la reproduction d'un sexe masculin, parce que soit c'est l'origine du monde, soit c'est autre chose au gré des algorithmes ou des signalements, mais ça nous permettait évidemment de lier aussi l'histoire, hein, puisque c'est vrai que l'origine du monde, on ne la regardait pas en public, on allait derrière un rideau chez un particulier, parce qu'il y avait une organisation dont tu parlais, Valérie, de cette pornographie pour les élites, hein, qui pouvait, elle, regarder. Et que fait le peuple alors à ce moment-là? Comment regarde-t-il? Comment peut-il voir aussi? Et cette distorsion entre une pornographie qui est de toute façon organisée socialement, même clandestine, et cette question de la lutte des classes qui revient bien à la mode aujourd'hui, de nouveau, le porno n'est jamais que le reflet de la société et des luttes sociales, qu'elles soient par exemple féministes d'une part ou qu'elles soient plus sociales au sens strict du terme.
Et donc c'est bien l'accès à la pornographie quelquefois qui est bien plus critiqué que la pornographie en tant que telle. Qui peut voir quand et où, à quel âge?
Parce qu'elle rapporte aussi. Donc la société interdit mais régule, parce que c'est
une économie, hein, la pornographie.
C'est une économie depuis longtemps.
Facebook interdit, mais les plateformes YouPorn et autres sur Internet fonctionnent.
Ben voilà, une plateforme l'année passée a fait 92 milliards de vues de films. 92 milliards de vues de films. Enfin, c'est gigantesque. Donc évidemment, cet accès est extrêmement intéressant. Et on a montré aussi, je crois, dans l'exposition, à quel point les moyens techniques, technologiques, suscitent à chaque fois, dès qu'on invente le cinéma, ce qu'on fait, c'est le porno. Dès qu'on invente la photo...
J'apprenais les frères Lumière, on réalisait des petits films...
Dès l'invention le VHS, l'Internet, dès qu'il y a une invention technologique, c'est évidemment les pratiques sexuelles qui arrivent, c'est la pulsion sexuelle d'une certaine manière qui est présente.
Et par le numérique, on a de nouveau aussi cette scission entre l'industrie pornographique qui se serait un peu lissée par rapport aux conditions, etc., et le porno amateur, c'est-à-dire le porno par tous et toutes, mais en même temps le porno amateur qui correspond à ce qu'on peut appeler l'ubérisation. Le porno n'est pas mis de côté sur ces nouvelles pratiques d'économie.
Jamais le porno n'est mis de côté, d'ailleurs, voilà. C'est ce qu'on apprend.
Mais en même temps, le porno amateur pose évidemment des questions au niveau de la protection. Moi, j'ai des étudiants qui regardaient un film porno dans le masque virtuel que nous a prêté Marc Dorcel, donc les industries pornographiques, et qui me dit, mais enfin, pourquoi ils se protègent? Je dis, mais parce que dans l'industrie cinématographique, pornographique, on doit se protéger. Mais eux, ils voient le porno, les vidéos sur Internet, où on ne se protège
pas. On ne se protège pas.
Et donc, il y a quand même une vertu
éducative. On met en danger les acteurs. Mais Jackie et Michel, c'était du porno amateur au départ aussi, j'ai appris ça. Ça a commencé par des photos de quidam qu'ils ont envoyées en vacances.
Oui, c'était des photos de vacances. Et puis après, c'était une plateforme où ils disaient aux gens, voilà, filmez-vous chez vous, dans votre chambre, ne la rangez surtout pas, il faut vraiment que ça fasse le truc chez soi. On envoie et on publie sur la plateforme. C'était aussi c'est un porno. Alors c'est pour ça que je disais franchouillard, parce qu'ils sont dans la parole, c'est-à-dire les femmes disent ce qu'elles veulent qu'on leur fasse, et puis après elles remercient, merci Jackie et Michel. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel, avec un gimmick en plus. Donc c'est très pensé au niveau aussi du langage. Ce qu'il y a, c'est que maintenant c'est devenu une industrie. Donc ils envoient des équipes de tournage, ils payent les actrices. Du coup, évidemment, quand on est payé, ça veut dire qu'on va faire des choses qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire.
Mais si t'es payé, tu vas le faire.
Voilà.
Et c'est l'ubérisation, et c'est encore le politique, puisque en fait le site Jackie et Michel est souvent loué par l'extrême droite, notamment, puisque c'est du vrai porno de chez nous, du porno bien français.
Identitaire,
la baguette et le béret sans faire d'allusion. Voilà, tout à fait. Donc voilà, le porno est encore politique, on est loin de ça, et pourtant le porno reste politique.
Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu l'humour? Parce que c'était très sympa aussi de revoir ça dans l'expo. Ce sont tous les films franchouillards. Alors vous qui êtes linguiste, Laurence Rosier, c'est amusant, tous les jeux de mots sur les films.
L'aubergine est bien farcie.
L'aubergine est bien farcie.
La chatte sur un doigt brûlant.
La chatte sur un doigt brûlant, voilà.
Oui, là, il y a vraiment, en effet, mais c'est pour ça que...
Sur les années 70, le début
Non, les surréalistes, déjà, on détournait les proverbes avec un côté grivois, il faut battre sa mère tant qu'elle est chaude, et ce genre de choses. Parce qu'en effet, si on regarde la manière dont Freud définit la grivoiserie, qui est, ce sont deux hommes qui parlent de sexualité, qui racontent, mais il faut qu'il y ait une femme qui soit là et qui rougisse. Et donc, il décrit un triangle qui passe par le langage. Les calembours, chez Rabelais par exemple. Donc il y a quelque chose de jouissif dans les mots. On peut se poser la question, les mots sont-ils pornographiques?
Et l'idée... Ils peuvent l'être, oui, les romans pornographiques ont eu...
Voilà, mais est-ce que c'est la chose que désigne le mot?
Dans l'imaginaire qu'on s'en fait.
Alors après, c'est vrai que le détournement fait partie de la pornographie. Hein. Dès qu'il y a un Ghostbuster qui sort, il y a sa version pornographique. Là même, il y a une version des Gilets jaunes pornographique. Donc, ça ne rate pas. Mais en effet, il y a quelque chose autour du langage qui a toujours été
Prenant.
Oh, le côté... je ne suis pas sûre, en fait, parce que je pense que les jeunes, aujourd'hui, je les vois faire des jeux de mots, etc. Donc, ça reste encore... Ben, le rap, hein, par exemple, qui
ah oui,
utilise...
Mais alors ça, je vais me retourner vers Valérie Piette. Le rap, les jeux de mots, la pornographie, c'est quand même pas très positif pour la femme et pour l'image de la femme. Donc, on rit, mais est-ce qu'on peut en rire, Valérie Piette?
Ben, je crois qu'on peut rire de tout, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais il est clair que c'est quelque chose, évidemment, qu'on a interrogé. C'est la question des femmes dans la domination des femmes dans la pornographie. Ça peut être extrêmement lourd, même si, on l'a dit, il y a des moments de raidissement au cours de l'histoire. Et ces années 70 ont sans doute été, juste après 68, beaucoup plus... ludique, en tout cas, dans les films, dans les titres, etc.
On entendait Emmanuel, on parlait d'Emmanuel en début d'émission. Quand on regarde Emmanuel aujourd'hui, ça paraît tout à fait anodin
et en même temps, quand on voit l'histoire de sa vie, elle a quand même porté ce rôle. Donc il est clair qu'il y a une domination masculine dans le pornographique, c'est souvent des hommes. Le porno a été fait par des hommes et pensé par des hommes pour des hommes. Ça, c'est une évidence.
Oui, il paraît qu'il y a un porno féminin.
On a voulu justement montrer aussi qu'il y a eu une critique féministe extrêmement forte du pornographie. En gros, le porno, c'est la théorie et le viol, c'est la pratique. Ça a été mis en avant par certaines féministes des années 60-70. Donc avec une demande d'interdiction totale de la pornographie, mais il ne faut pas oublier, c'est une vision quelquefois caricaturale d'ailleurs d'une certaine forme de féminisme, mais qui existe. Et puis il y a d'autres féministes qu'on a appelées pro-sexe qui ont décidé que le porno faisait aussi partie de leur vie et qu'il y avait là un porno féministe qui a vu le jour, avec un porno aujourd'hui queer, féministe, post-féministe, trans, lesbienne. Bien,
est-ce qu'il est fort consommé, entre guillemets? Est-ce que les femmes consomment du porno ou quand même moins que les hommes?
De plus en plus, justement. Là aussi, on est dans les stéréotypes. Et d'ailleurs, même Dorcel, on en parlait, qui est quand même le mainstream français du porno, aujourd'hui, pousse de plus en plus à des études de marché sur la consommation féminine du porno. Parce que si les femmes regardent du porno et s'ils font du film pour les femmes, c'est quand même 50% en plus de consommatrices.
S'il engage de l'argent là-dedans, c'est que ça doit rapporter.
C'est que ça rapporte. Évidemment que les femmes regardent le porno. Et là aussi, il faut une libéralisation de la parole, dont des Despentes, d'autres qui apparaissent dans l'exposition.
En mettant en avant Despentes, on met quelque chose aussi, une réaction avec Baise-moi. Violente, au sens ce qui a fait peur avec Baise-moi, c'était pas la pornographie au sens strict du terme, c'est l'explosion des frontières. C'est-à-dire, je tourne un film violent montrant des femmes en disant Baise-moi, qui est le désir féminin et qui ne s'adresse pas nécessairement à des hommes d'ailleurs. Je prends une actrice du X, donc je bouleverse tous les codes et les frontières que la société essaye de maintenir quand même, pour ne pas évidemment que les femmes parlent de sexualité de façon libre, crue, parce que quand on parle d'un porno féminin, c'est toujours lié à l'érotisme, c'est joli, c'est mignon, c'est pas violent. Alors que pourquoi ne peut-on pas avoir un imaginaire et des pratiques consenties qui soient tout à fait différentes. Donc c'est vrai que la fracture Baise-moi, on a voulu la mettre en avant dans l'alcôve, avec en plus quelqu'un qui maintenant comme ça dans la Pléiade, Virginie Despentes a le prix Goncourt. Donc il y a aussi un moment un lissage de la société. Alors on attend peut-être la prochaine ou le prochain film qui va de nouveau rebouleverser.
Film qui n'a pas été classé X, mais qui était interdit au moins 18 ans.
Oui.
Pourquoi
Mais c'est pas un film excitant.
Pas du tout, il n'est pas porno.
Donc c'est ça qui faisait la
différence. On n'a pas de vertu excitatoire.
Donc le porno doit avoir une vertu excitatoire.
Il est lié, alors ça c'est ce qu'on aborde aussi dans l'exposition, et qui reste toujours tabou, la question de la masturbation. Et encore plus pour les filles, parce que leur dire tu sais, ma chérie, tu as un clitoris et tu vas pouvoir t'en servir pour te faire plaisir, c'est pas quelque chose qui est courant dans l'éducation. Dans l'expo, à un moment, on a des représentations de camé avec des vulves très différentes. C'est quelque chose qu'on voulait montrer en disant voilà la variété du sexe féminin qui souvent est homogénéisée justement dans le porno mainstream, les sexes refaits, les sexes épilés, les sexes maquillés. Ben non, on a voulu. Ils sont pas tous comme ça. Et donc là, il y avait vraiment quelque chose aussi de politique dans montrer et parler avec Virginie Despentes de quelqu'un qui, en effet, est maintenant un peu institutionnalisé, même si elle a gardé sa parole libre et qui s'exprime sur des sujets politiques autres que simplement la pornographie mainstream, bien sûr.
Alors dans l'éducation, bon voilà, c'est une expo qui peut se visiter en famille, mais interdite aux moins de 16 ans. Ça reste quand même délicat de parler de pornographie et de voir de la pornographie avec un enfant, un neveu, enfin que sais-je, de la famille ou même d'autres étrangers. Quand on se retrouve dans le local, je vous le disais tout à l'heure, au fond de cette expo où il y a des extraits de films et qu'on est seul et puis qu'on est surpris par un couple ou l'autre, ben on n'a pas envie de rester là 10 minutes parce qu'on va être qualifié de...
On a cherché ce malaise aussi,
oui,
je crois.
Oui, on voulait tester les différentes émotions. C'est-à-dire, la curiosité, le dégoût, en effet, le malaise, le rire. Je pense que là, dans la diversité des émotions suscitées, je crois que c'était pas conscient, mais dans le choix des œuvres qu'on a faites et dans les figures que l'on a mis en avant, c'était pour dire ne pas s'arrêter, pas faire un truc par exemple où on aurait rigolé tout le temps, ou pas faire un truc où on aurait été dégoûté tout le temps, mais cette palette des émotions qui est ce que suscite en nous la pornographie.
Par contre, ce qui a été très conscient, c'était aussi de montrer du porno, parce qu'on s'est dit faire une expo sur le porno, c'est aussi montrer du porno.
Bien sûr.
Alors évidemment, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, 2-3 jours avant l'expo, nous-mêmes, on en avait un peu marre du porno, et on se posait cette question, parce que ce qui est obscène pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Oui. Et je crois que la question notamment du colonialisme, il y a quelquefois des photographies qui apparaissent anodines avec ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les sites porno, et pourtant qui sont d'une obscénité totale.
Justement, les cartes postales de colonialisme m'ont plus perturbé que...
Où est notre niveau, notre seuil de tolérance de l'obscène et qu'est-ce qui nous excite, et je crois que là ça renvoie évidemment à chaque personne, mais en même temps on se rend bien compte qu'elle a une construction d'une société sur une longue histoire.
Alors pourquoi, bon, cette expo là on l'a un peu compris, mais alors pourquoi vous parliez en début d'émission que des études porn studies, pourquoi, quel est l'intérêt, le but, comment ça s'est créé, comment ça se passe?
Elles existent dans énormément d'universités, notamment aux États-Unis,
depuis combien de temps?
Mais pas que, depuis une vingtaine d'années.
Oui, les années 90. C'est une partie des féministes pro-sexe qui, justement, pour quelque part dire, contrer un peu un discours qui était l'interdiction, un discours moral, en disant mais c'est un objet qui existe. Et en tant qu'universitaire, si des objets qui existent, on n'en parle pas, et qui en plus, avec tout ce qu'on vient de dire, permettent vraiment une réflexion générale sur la société, pourquoi ne peut-on pas l'étudier à l'université? Alors il y a le champ de l'anthropologie, de la sociologie, il y a des enquêtes maintenant qui sont menées auprès des travailleurs et des travailleuses du sexe, qui sont les acteurs et les actrices pornographiques, qu'on assimile aussi souvent à la prostitution. Et donc il y a des choses à dire, et il faut le faire de façon, je pense, très pointue, très subtile. C'est pas parce que c'est le porno qu'on peut en parler comme ça, de façon rapide. Et donc je pense que vraiment ce champ est pour moi essentiel, parce qu'on peut y entrer par la littérature, par l'histoire, par la psychanalyse, par la biologie, par la médecine, et ça serait vraiment, je pense, très salutaire qu'il y ait ce fil rouge qui soit poursuivi.
Tout à fait.
Comment est perçue l'expo? Qu'en avez-vous comme écho?
Un énorme succès.
Un énorme succès, 3500 personnes le jour de l'inauguration.
Non, 1500.
1500, excuse-moi. 1500,
plus de 5000 visiteurs, on a des écoles. Alors il y a parfois des gens qui nous... Alors on voit le malaise aussi dans le livre d'or, parce que d'habitude, les gens parlent de l'expo. Là, on a des gens qui dessinent des graffitis obscènes, qui laissent des numéros de téléphone, qui disent vive le sexe.
Ah, moi j'ai laissé mon numéro de téléphone, non, c'est pas.
Et donc certains nous disent ah, vous n'avez pas parlé de ça, d'autres, etc. Donc elle fait, en tout cas elle attire, parce que
fait débat, et c'est le but, même si certains nous disent de toute façon il y a du monde, mais c'est assez facile,
c'est
avec
facile,
le porno,
oui.
Et je crois justement que c'est pas si simple que ça, parce que comme le disait Laurent, c'est un objet historique, artistique, économique, politique, et qu'il fallait le prendre. Les expressions sont faciles, de prendre de tous les côtés et de pouvoir véritablement en faire un objet d'étude scientifique universitaire.
Est-ce qu'il faut être accompagné? Il y a des visites guidées, est-ce que c'est mieux?
Les gens disent qu'il y a un plus, parce qu'évidemment on fait des liens et on donne notre liste de lecture, parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait trop de panneaux à lire. surtout sur une expo sur la pornographie. À la fois, il en fallait, mais en même temps, il fallait aussi des images, évidemment. Et je pense que oui, les visites guidées sont quand même un plus.
Et puis, il y a le livret de l'exposition qui est très sympa. Là, on peut se replonger et puis échanger.
Et qui est augmenté. Il y a plus de texte que dans l'expo.
Oui, super bien fait. Une expo qui court jusqu'au 22 décembre à l'ULB, Espace Allende. C'est bien cela?
Oui. Et qui reprend
en janvier.
Le 6 janvier.
Du 6 au 20 janvier et qui va circuler un peu?
En tout cas, à Charleroi, à partir du 6 mai, pour 3 semaines. Et puis, le reste, on va voir.
Des horaires, les horaires sont sur chaque jour site, un peu différents sur le site internet. Donnez-nous un site internet.
C'est le site internet du LB Culture. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir parlé pornographie ce samedi soir. À une prochaine, en
bonne
espérant
soirée.
Bon vœu à cette exposition. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir.
En quête de sens
sur la première.